Blagnac 1973, cinquième instruction.
Ce matin, sur la manière dont Dieu, ce matin, pardon, hier soir, sur la manière dont Dieu était blessé par le péché, par la résistance humaine et même par la résistance des anges, ce mystère de la miséricorde qui n'est pas une impassibilité au sens où nous l'entendons, qui est une impassibilité absolument incompréhensible, telle que si nous étions à la place de Dieu, nous souffririons, et au fond c'est ça que ça veut dire. Eh bien, ça appartient à ce que j'appellerais, si vous voulez, la splendeur mystérieuse de Dieu, autrement dit, sa gloire, en ce qu'elle a d'absolument incompréhensible pour nous, ce visage que l'œil de l'homme n'a pas vu, que son oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté dans son cœur. Il appartient à cette même gloire d'avoir envie de se communiquer. Voilà, alors là, je ne chercherai pas non plus à savoir pourquoi. C'est un fait, ou plutôt c'est un mystère, qui dans notre esprit fait nombre, se distingue du premier, mais qui dans la réalité ne s'en distingue pas. C'est justement parce que Dieu est comme ça, qu'il a envie, qu'il éprouve le besoin, si j'ose dire, de se communiquer. Et de communiquer ce qu'il a de plus précieux. Alors, ce mystère de la communication, nous savons par la foi qu'il existe en Dieu, à l'intérieur de Dieu, de toute éternité, de façon absolument nécessaire, puisque c'est constitutif de l'être même de Dieu, à savoir qu'il y a, le mystère de la communication appartient à la structure intime du mystère de Dieu. Puisqu'à l'intérieur de Dieu, le Père engendre le Fils, et que le Père et le Fils, en commun, ensemble, sont à la source de la procession du Saint-Esprit. C'est une communication, ou plutôt c'est deux communications, ça fait deux communications, qui sont distinctes pour nous, car le Saint-Esprit n'est pas un Fils, il ne procède pas comme un Fils, il y a là un mode de communication pour lequel nous n'avons pas la même analogie dans la vie humaine que pour ce mode de communication qui permet au Père d'engendrer le Verbe. Là, nous avons des analogies, ça ne veut pas dire que c'est moins mystérieux, mais ça veut dire que c'est moins déroutant. Tout au moins, ce qui nous en est dit par la parole de Dieu est moins affolant ou moins inconnu pour nous que la procession du Saint-Esprit. Mais nous savons, par le fait même de notre existence et par la révélation, que cette communication intérieure, je n'ose pas dire qu'elle n'a pas suffi à Dieu, mais enfin que Dieu a voulu, mais il n'a pas voulu un jour. Il n'a pas voulu comme ça, après avoir réfléchi, après avoir hésité, et après s'être décidé. Il a voulu de toute éternité que cette communication intérieure se prolonge dans une communication extérieure et que cette communication extérieure comporte des degrés de perfection depuis les petits cailloux qui reçoivent communication d'un certain aspect du mystère de Dieu qui est l'existence, si vous voulez, et puis peut-être quelques autres petites perfections annexes jusqu'au degré suprême de la communication, et le degré suprême de la communication, eh bien, nous le trouvons en Jésus-Christ, dans l'humanité de Jésus-Christ. Il y a très haut dans la communication, il y a les anges, si vous voulez, c'est quand même pas mal déjà. Mais au-dessus des anges, il y a Jésus-Christ, Et d'une certaine manière, il y a les chrétiens. Et d'une certaine manière, il y a aussi tous les hommes. Avec infiniment de nuances, que je ne me charge pas de débroussailler avec vous en si peu de temps. Mais c'est pour le moment, c'est le mystère du Christ qui nous retiendra, envisagé comme la communication la plus haute que Dieu ait jamais faite de sa gloire et de sa splendeur invisible. Alors il y a bien entendu la communication faite à la nature humaine de la personne divine, ça constitue le mystère de l'incarnation, mais le mystère de l'incarnation défini dans son schéma ontologique abstrait, c'est à peu près la même chose par rapport à Jésus-Christ que si je faisais de l'anatomie par rapport à la vie humaine. Vous voyez, c'est un élément, mais il faut le voir vivre. Il faut le voir vivre dans sa totalité. La splendeur du Christ ne se laisse pas définir seulement par les mots dont nous nous servons pour définir le mystère de l'incarnation. Évidemment, la personnalité divine est au-dessus de tout ce que Dieu donne à l'homme Jésus par ailleurs, c'est vrai, n'empêche qu'il lui donne bien d'autres choses que l'incarnation elle-même, et ces autres choses, il faut les voir. Enfin, autant qu'on peut les voir, à travers la révélation. Donc, Dieu communique à Jésus-Christ sa gloire ou sa splendeur incompréhensible au suprême degré possible. Et cette communication, alors, quand il s'agit des créatures, revêt nécessairement deux aspects complémentaires, d'ailleurs, et je ne me charge pas non plus de débroussailler avec vous de quelle façon ces deux aspects sont solidaires, retentissent l'un sur l'autre. Je vais me contenter de les distinguer, si vous voulez bien. Et puis de signaler qu'ils sont quand même complémentaires, sans aller jusqu'à l'étude du détail de la façon dont ils peuvent être complémentaires dans différents cas. Alors, la première communication la plus simple, c'est la vision face à face. Nous ne pouvons pas dire que nous avons connaissance du secret de Dieu, que nous sommes introduits dans le secret de Dieu en perfection et d'une manière consommée, tant que nous ne voyons pas Dieu face à face. Ça, c'est une ligne par laquelle nous est communiquée la lumière de la gloire de Dieu. Je me rattache pour ma part à cette tradition qui veut, de manière très ferme, dans l'Église latine et dans l'Église grecque ou orientale, avec une technique différente, dans un cas comme dans l'autre, cette tradition jusqu'à une date très récente, a toujours voulu que le Christ ait été, dès sa conception, tout au moins dès sa naissance, ait été baigné dans la lumière divine, baigné dans la lumière de gloire. Ce que les latins appellent la vision face à face, ce que les orientaux appellent les énergies incréées, la radiation de la lumière divine, enfin, à travers des mots différents, c'est le même mystère qu'ils affirment et qui se traduit en particulier, qui se trahit en particulier à la transfiguration. Je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous, puisque je ne sais plus ce que j'ai dit à qui j'ai dit quoi depuis quelque temps, mais si vous allez dire aux orientaux que à la transfiguration le Christ n'était pas environné d'une lumière qui était la lumière divine, que c'était la projection d'une expérience des apôtres, ou je ne sais pas quoi de ce genre. Enfin, si vous diminuez la portée réaliste de la transfiguration, et si vous n'admettez, ou si vous en faites une espèce de miracle insolite dans la vie du Christ, si vous n'admettez pas qu'à tout instant, il était environné, menacé, si j'ose dire, par cette lumière qui éclate à la transfiguration, eh bien, les orientaux vous enverront promener, ou alors, ils perdront leur foi à eux parce que toute la tradition orientale est fascinée par ce mystère de la transfiguration. On ne peut pas toucher à ces choses-là sans toucher à ce qui fait la moelle de la spiritualité chrétienne du côté des orientaux au moins. Alors c'est tout de même pas une simple histoire théologique. Et on ne peut pas se permettre de toucher à ces choses-là à la légère, quelles que soient les difficultés que ça représente pour nous, de concevoir un homme plongé dans les conditions de la souffrance et de la mort comme nous, de la fatigue, qui soit vraiment notre frère en toute chose, excepté le péché, mais qui soit quand même environné de la lumière de gloire, bien, c'est ça le mystère du Christ dans la tradition grecque, et c'est aussi le mystère du Christ dans la tradition latine. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, il faut accepter, peut-être, d'être, disons, vaguement solitaire en tant que théologien, si on veut garder le contact avec cette tradition, ben, j'en prends le risque, parce que je ne peux pas croire que ce soit, encore une fois, libre, que ce soit une chose dont on ait le droit de discuter et qu'on ait le droit de refondre selon une mentalité dite moderne. Car si on se met à refondre des choses aussi constantes et aussi lourdes de sens selon la mentalité moderne, il n'y a évidemment pas de limite à ce qu'on fera en si bon chemin, enfin, en si bon, emporté dans un si bon mouvement. Et il n'y a effectivement pas de limite à ce à quoi aboutissent les théologiens et les prêtres et les chrétiens, bien sûr, quand ils se mettent à pratiquer des refondes de ce genre. J'ai entendu dans l'histoire d'un prêtre qui, à propos de la résurrection du Christ, parce que justement on s'aperçoit très bien, très vite, parce que au début on touche à quelque chose qui semble pas trop grave, pas essentiel à la foi chrétienne, qu'on use de la liberté légitime des théologiens en toute matière qui n'a pas été définie rigoureusement. Et c'est vrai, il y a une liberté légitime dans cette matière, dans toute matière qui n'a pas été définie rigoureusement ou qui n'a pas été tenue d'une manière constante par toute la tradition chrétienne. Là, il faut quand même faire attention. C'est pas parce qu'une chose n'a pas été définie canoniquement. On se plaint assez aujourd'hui qu'il faut pas être trop canoniste, qu'il faut pas trop légiférer, qu'il faut pas avoir trop le sens de la loi. Très bien. Seulement, quand quelque chose n'a pas été défini, on sait le dire, pour prendre les libertés par rapport à cette chose non définie, même si toute la tradition chrétienne n'en a jamais douté. Alors ça, c'est du légalisme, au pire sens du mot. Vous voyez, de se servir du fait que, jusqu'à présent, aucune hérésie n'a eu l'audace de toucher à ce point, et qu'ainsi aucune définition canonique n'est venue sanctionner cette vérité de foi, en prendre occasion pour être se libérer, comme on dit, pas, ou se détacher, plus exactement, de cette tradition chrétienne fondamentale, ben, ça, c'est ce que j'appelle du légalisme. Et au sens tout à fait, enfin, au sens inverse du mot. Pas, on fait appel, à ce moment-là, à la loi, pour justifier de ne pas être aux écoutes de la tradition chrétienne dans toute sa profondeur. Et alors, les fruits de, on connaît l'arbre à ses fruits, les fruits de cette attitude sont évidents. On commence par toucher à une chose, et puis c'est une espèce de cancer généralisé qui s'empare de la foi chrétienne. Il n'y a plus aucune frontière, aucun point où on soit sûr qu'on doive s'arrêter. Alors, il en est résulté assez vite, par exemple, que la résurrection du Christ a été mise en cause, et c'est une chose assez remarquable, parce que l'esprit de fronde théologique, si vous voulez, qui caractérise tout de même notre temps, a commencé bien avant qu'on touche à la résurrection. C'est très net. J'ai connu le temps où l'esprit qui anime tout ce qui se passe aujourd'hui était à l'œuvre, mais on ne touchait pas à la résurrection, on n'avait pas encore eu cette idée-là. Et puis, un beau jour, on s'est dit, mais pourquoi pas? Évidemment, pourquoi pas? Il n'y a pas de raison de s'arrêter. Et puis, on touche à la divinité du Christ. Et puis, on touche même à l'existence de Dieu. Il n'y a absolument aucune raison de s'arrêter. Alors, comme je le dis souvent, il se trouve que si on envisage ce chemin de fronde en tant que, sans se l'avouer à lui-même, il veut se libérer de la foi et de la révélation, si on envisage ce chemin de fronde dans sa profondeur, dans sa signification inconsciente, car ils ne veulent pas en prendre conscience, alors je dis souvent, ben j'ai de l'avance sur eux, parce que je me suis libéré de la foi. Bien avant, et bien plus totalement, et bien plus radicalement, et pendant plusieurs années. Alors, j'ai pas fait le détail. Et c'est justement ce que je ne comprends pas, ce qui me paraît de l'infantilisme, c'est de s'amuser, quand on veut se libérer de la révélation, à faire le détail. Mais il n'y a qu'à se libérer de tout d'un coup, en quittant la révélation chrétienne, c'est tellement plus simple. Et c'est plus honnête. C'est peut-être plus dramatique, mais puisqu'on en arrive au même drame, un jour ou l'autre, il est beaucoup plus dangereux d'y arriver insensiblement, comme dit l'écrivain anglican qui lui a gardé la foi, qui s'appelle Lewis et que j'aime beaucoup, beaucoup plus la foi que la plupart de ces catholiques-là, sans bornes millières, voyez, descendre vers l'incroyance, sans, en pente douce, sans mine de rien, au nom de la liberté de l'esprit à l'intérieur de l'Église, cette manière de perdre la foi, est infiniment plus nocif, plus dangereuse et plus sûre quant à son résultat que le fait de dire je ne peux plus continuer à croire, je quitte l'Église. Ça, je l'ai fait. Et ça a duré 10 ans. Alors là, je crois que c'est quand même, si grave que ce soit, je ne m'en vante pas, hein, quand même, hein, non. Mais ça me paraît plus net, quoi, enfin, plus propre, et peut-être moins dangereux. Et j'en donne comme preuve ce prêtre, qui donc remettait en question la résurrection et toutes ces affaires-là, et qui faisait un cercle de laïcs, et les laïcs, les laïcs chrétiens qui étaient là, faisaient comme beaucoup de laïcs chrétiens, et ils ont pris l'habitude d'écouter les prêtres. Une habitude que je ne conteste pas. Mais il faudrait toujours examiner ses motifs. Vous voyez, il faut écouter ses parents, parce que ce sont nos parents. Mais, non pas parce qu'ils disent infailliblement la vérité. Les prêtres, il faut les écouter parce qu'ils transmettent une tradition qui les dépasse. Mais non pas parce que il faudrait être docile et pieux envers ce que disent les prêtres sans réagir si justement ils trahissent la tradition qui les dépasse. Et si au lieu justement de transmettre, n'est-ce pas, traditore, n'est-ce pas, ils trahissent traditore, hein, c'est attention. Alors, la plupart des chrétiens de cet auditoire n'y voyez pas malice, c'est le prêtre qui le dit, donc ça doit être vrai. Vous voyez, ça ne fatiguait pas beaucoup les ménages, n'est-ce pas ? Et il n'y a pas de doute qu'on paye une certaine paresse intellectuelle, parce que la paresse intellectuelle est justifiée, non, il suffit d'aimer, il suffit d'être pieux, bon, mais quand les prêtres se mettent à dire des choses qui ne sont pas sûres, bien la paresse intellectuelle fait qu'on avale n'importe quoi, en disant, ben, monsieur le curé l'a dit, bon. Alors, c'était le cas. Malheureusement pour lui, il est tombé sur une incroyante, qui, elle, cherchait la vérité, et qui, évidemment, n'était pas docile, forcément, puisqu'elle était incroyante. Par conséquent, elle voulait des explications et des précisions. Et alors, elle lui a demandé un jour, enfin, d'après vous, qu'est devenu le cadavre, ce que vous appelez le cadavre du Christ? Et ce prêtre, c'était en conférence avec des gens qui étaient là. Ce prêtre s'est troublé. Et il était évidemment très tourmenté depuis des semaines, des mois par tout ça, je pense. Enfin, ça a été comme la chiquenaude qui a tout fait basculer. Il n'a rien répondu. Il est sorti. Il a disparu le soir même de la paroisse et on l'a retrouvé 8 jours plus tard, mort sur le rivage de la Méditerranée. Ça se passait une paroisse de la région parisienne. Pour vous dire, simplement, il y a des problèmes qui tuent. Qui tuent le corps, c'est évident, la preuve. Je ne sais pas comment il est mort. C'est pas du tout. Mais enfin, en tous les cas, le fait est que c'est comme ça que ça s'est passé. Et ce sont des témoins de première main, des paroissiens de cette paroisse, qui m'ont raconté l'histoire, et qui l'ont connue personnellement. Et je connais une fille qui ne s'est jamais remise de cette histoire, jamais remise de cette histoire, dont la foi ne s'est jamais remise de cette histoire. Que de faits analogues, n'est-ce pas? Bien. Alors, j'ai à être aux écoutes d'une certaine lumière et à l'approfondir. Bon, tout ça, c'est une digression à propos de cette tradition selon laquelle le Christ homme était dans la gloire, même avant, si je peux dire, sa glorification. Bien, je dis que cette tradition est constante chez les Grecs sous une forme, chez les Latins sous une autre, à savoir, il avait la vision face à face. Aujourd'hui, il faut accepter de se présenter comme complètement en dehors de la course pour maintenir cette position. Eh bien, tant pis, je l'accepte. Et j'en accepte toutes les conséquences, y compris que, justement, ceux ou celles qui pensent qu'aujourd'hui c'est périmé, qu'il faut être réactionnaire ou je ne sais pas quoi. Alors, je ne me sens pas du tout réactionnaire, mais après tout, on n'est jamais juge de soi-même. Qui n'aient pas envie de faire confiance à ce que je dis sur ce point, parce que ce que je dis ne vient pas de moi et que ma doctrine sur ce point n'est pas ma doctrine, et bien tant pis, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Alors, cette communication donc de la vision face à face a été offerte à Jésus-Christ dès le début. Il y a un autre mode de communication. C'est ce que je vous disais au commencement de cette instruction. Il y a un autre mode de communication. Et quels sont les rapports entre ce mode de communication et la vision face à face? C'est ce que je ne me charge pas de débrouiller, je vous le disais. Mais enfin, il faut que je précise tout de même un petit peu de quoi il s'agit. Dieu veut nous communiquer quelque chose de sa splendeur incompréhensible, de sa gloire, en nous rendant semblables. Voilà. En nous configurant à cette splendeur et à cette gloire. Et alors, c'est là où je vous disais, il y a évidemment un rapport entre les deux. On ne peut pas voir Dieu face à face sans avoir été un peu configuré préalablement au mystère même de Dieu. Et cette configuration préalable qui est indispensable pour que Dieu puisse nous donner la vision face à face, c'est précisément ce qu'on appelle la grâce. Bon, je ne m'étends pas là-dessus. Mais, dans le cas de ce que je vous disais hier, à savoir cette blessure de la miséricorde face au péché, eh bien, je dis simplement que le Christ a reçu communication de cette splendeur par autre chose que la vision face à face. Autre chose qui est en rapport avec les visions face à face, mais je ne sais pas quel rapport. Tout au moins ce soir avec vous, je ne sais pas. Je ne peux pas approfondir ça. Mais je dis c'est quand même autre chose. Dieu a offert à Jésus-Christ de ressembler à Dieu sur ce point du mystère de la miséricorde. Et je reprends par là ce que je vous disais au sujet du frère aîné de la parabole de l'enfant prodigue. Dieu a offert à ce frère aîné de partager et de subir, et ici nous arrivons à un mot clé, de subir dans son cœur quelque chose de cette splendeur du mystère de la miséricorde. Autrement dit, de devenir miséricordieux à un degré de profondeur et de folie apparente qui caractérise précisément cette splendeur incompréhensible que nous appelons miséricorde. Dieu a voulu que le Christ soit miséricordieux. Ça revient à dire cela. Seulement, attention. Je vous ai dit hier, la croix, c'est la souffrance de Dieu. C'est la souffrance de Dieu parce que Dieu est miséricordieux. Et je vous ai dit hier, cette souffrance n'est pas une souffrance, c'est une façon de parler. Mais le Saint-Esprit, n'en ayant pas trouvé d'autre, eh bien je n'en ai pas trouvé d'autre non plus. Après le Saint-Esprit, j'ai été obligé de lui avouer que je ne pouvais pas faire mieux. Bon. Donc nous parlerons d'une certaine souffrance de Dieu face à la misère de ses créatures. Cette souffrance, puisque justement nous avons tellement de mal à la définir, nous soupçonnons qu'elle recèle, si j'ose dire, un recoin particulièrement précieux, particulièrement élevé, particulièrement divin, particulièrement mystérieux et insondable de la splendeur et de la gloire de Dieu. C'est vraiment le visage de Dieu qui ne ressemble à rien et qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Si donc Dieu demande à un homme, ou offre à un homme, Jésus-Christ, de partager quelque chose de ce que Dieu éprouve, lui, en face du mystère du mal, attention, il s'agit d'un cœur humain, cette fois. Par conséquent, je pronostique d'avance que cette communication, aussi folle que possible, aussi illimitée que possible, du poids, c'est-à-dire de la gloire, puisque c'est le même mot hébreu, du mystère de la miséricorde à un cœur de chair, va à la fois faire mourir et ressusciter ce cœur de chair. Voilà. On peut s'y attendre à ce qu'il en meure et à ce qu'il en ressuscite. Parce que chez lui, cette quasi-souffrance de Dieu va devenir une vraie souffrance et mortelle. Et comme il s'agit tout de même d'une souffrance qui vient de la gloire, je vous l'ai dit, une souffrance du bonheur, une souffrance de la paix, une souffrance de l'amour, eh bien cette souffrance mortelle, étant infligée en fin de compte par la gloire de la miséricorde, va en même temps ressusciter celui qu'elle met à mort. Et voilà pourquoi le Christ, en tant qu'homme, broyé par le mystère de la miséricorde, va d'abord en mourir et en ressusciter. Ça, c'est ça qui me paraît être ce que nous pouvons dire ou balbutier de la sagesse de la croix, ou de la folie de la croix, pour parler comme Paul, laquelle est plus sage que toute la sagesse des hommes, et de l'infirmité de la croix, qui est l'infirmité de Dieu, laquelle est plus forte que toute la force des hommes. Et alors, réfracté ainsi dans un cœur de chair, cette splendeur incompréhensible de la miséricorde va devenir ce que j'appellerai une victoire sur le mal, mais une victoire à la manière de Dieu. Et là, il faut que je vous explique en quoi consiste cette victoire à la manière de Dieu, mais comme il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais me contenter d'une toute petite esquisse. La victoire de Dieu, je ne parle pas tellement de la victoire de Dieu au niveau de Dieu, parce que c'est une notion qui est beaucoup trop humaine pour convenir à Dieu dans son mystère incompréhensible. Je dis seulement que cette splendeur incompréhensible de la miséricorde communiquée à une créature devient victoire. Mais une victoire divine et paradoxale, une victoire à la mode de Dieu, si j'ose dire, une victoire à la sauce divine. Et alors cette victoire à la mode de Dieu, c'est une victoire très étrange. parce que elle est aux antipodes de ce que nous nous attendons à connaître en fait victoire à l'égard du mal. La première victoire que nous imaginerions que Dieu puisse remporter sur le mal, ce serait d'empêcher que le mal existe. Et c'est ça qui trouble Job, et c'est ça qui nous trouble. Dieu n'empêche pas que le mal existe. Vous voyez ? Mais seulement, précisément, là est ce mystère, Dieu n'a pas besoin pour remporter la victoire sur le mal, et pour que le Christ remporte la victoire sur le mal, il pourrait créer Jésus-Christ dans un monde où il n'y ait pas le mal. Et ainsi Jésus-Christ serait victorieux, sans avoir à combattre du mal, puisqu'il n'y aurait pas de mal. Mais justement, Dieu n'a pas besoin de ça. Et Jésus-Christ peut triompher du mal dans un monde où le mal existe. C'est la première victoire, c'est le premier degré paradoxal de la victoire de Dieu. Et le second degré, c'est que Dieu n'a pas besoin, pour triompher du mal, de se venger du mal, de se défendre contre lui. Et de même, Jésus-Christ n'aura pas besoin, pour triompher du mal, de se défendre contre lui, ni de se venger à la manière des hommes. Mon Père pourrait envoyer 12 légions d'anges, il ne le fera pas, parce que ce ne serait pas une victoire à la mode de Dieu, ce serait une victoire à la mode humaine. Et ce n'est pas cette victoire-là que Dieu m'offre de connaître sur le mal. Et enfin, Dieu pourrait triompher du mal en étant purement et simplement indifférent, ce qui va contre ce que je vous disais hier, en disant ben, qu'il fasse ce qu'il veut, moi ça ne me gêne pas. Ça ne m'empêche pas d'être heureux chez moi, si je peux dire. Ils peuvent essayer d'escalader le ciel, ils n'y arriveront pas. Et ils pourraient donner ainsi au Christ une participation à cette victoire d'indifférence, justement en le délivrant du mal. Au jour de la transfiguration, par exemple, il pourrait le soustraire au mal, empêcher que le mal ne vienne le faire mourir, mais ce ne serait pas encore.
La fin de cette conférence n'a pas été enregistrée.